Bien, bonjour. Ce que je voudrais, avant de commencer ce partage, vous saluer. Ma famille est absente de corps, mais présente par l'esprit, tant elle est avec moi pour vous saluer dans l'épître de Jude. À ceux qui ont été appelés, qui sont aimés en Dieu, le Père, et gardé par Jésus-Christ et pour Jésus-Christ, que la miséricorde, la paix et la charité vous soient multipliées pour cette bonne et heureuse année 2007, pour chacun et chacune d'entre vous. Il est vrai que cette année, cette fin d'année 2006, l'année dernière, donc il y a 15 jours aujourd'hui, l'on m'a demandé de pouvoir préparer sur un thème que nous connaissons tous et par lequel le commandement aussi nous concerne, c'est la prédication de l'Évangile. Trois volets, bien sûr, pour ce mois de janvier ont été préparés. La semaine dernière, donc à Brignoles, le premier volet a été partagé avec deux textes que vous connaissez tous, Matthieu 28, 19, « Fête des nations des disciples » et Marc, chapitre 16, verset 15, « Allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à la création. » Le premier volet a été donc partagé. Aujourd'hui, c'est le deuxième volet. Dans un instant, nous allons y venir. Mais il y a ce troisième volet et qui va être partagé le 28 janvier donc sur la communauté du Pont de Bois à Toulon-Ouest. Sur toujours le même thème, la prédication de l'Évangile. Je vous invite donc, chers frères et sœurs, à ouvrir vos Bibles dans le livre des Actes des Apôtres. Au chapitre 5, verset 20. Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 20. Annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. Je l'intitulerai donc notre devoir. Chers frères et sœurs et amis, Dieu ne nous a pas appelés à christianiser le monde, c'est-à-dire à répandre dans les foules par n'importe quel moyen la connaissance d'un Jésus et d'une doctrine qui resterait extérieure à la vie des âmes. L'évangile de Jésus-Christ n'est pas un idéal à poursuivre, ni un modèle à imiter, ni une influence à subir. C'est tout simplement une vie à accepter. La tâche de l'Église n'est donc pas de christianiser le monde, mais de l'évangéliser. S'il existe aujourd'hui des pays christianisés, souvenons-nous toujours qu'il n'y a pas de nation chrétienne. Seuls les chrétiens dans le monde, le corps de Christ, dont chaque enfant est un membre, nous dit Paul dans sa première lettre aux Corinthiens, chapitre 12, verset 27. Ceux qui évangélisent selon l'ordre de Jésus ressuscité doivent voir se détacher du monde et de sa vaine manière de vivre, les personnes qui reçoivent le message et croient en Christ par leurs paroles. Maintenant, ces âmes sont encore dans le monde, mais elles ne sont plus du monde. Elles font partie de ce peuple d'étrangers sur la terre qui s'appelle l'Église du Dieu vivant. C'est le peuple de Dieu ici-bas. Non un peuple qui va à l'Église, mais qui est l'Église de Dieu, 24 heures sur 24. L'évangélisation véritable a pour but la naissance, la formation et la croissance d'un peuple nouveau, issu de toute nation, de toute tribu, de toute race, de toute langue. Elle vise à faire d'hommes de chair des disciples de Jésus-Christ, des êtres ayant dans ce monde une nature nouvelle, une vocation céleste. C'est car la prédication de l'Évangile est les moyens et le moyen que Dieu se sert pour appeler ceux et celles qu'il a élus dès avant la fondation du monde pour qu'ils soient saints et irrépréhensibles devant lui. Ceux et celles qui obéissent à l'Évangile et croient la parole de vérité qui leur est prêchée sont scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de leur héritage. Ils deviennent ceux et celles que Dieu s'est acquis en Jésus-Christ pour être, dès ici-bas, à la louange de la gloire de sa grâce. Et le monde dans lequel Dieu est descendu en Jésus-Christ pour appeler et sauver les hommes reste un monde dominé par Satan et où règne la corruption qui existe par la convoitise. Le chrétien sait donc quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Il connaît quelle est la richesse de la gloire de l'héritage que Dieu réserve aux saints. Et il expérimente qu'elle est envers ceux qui croient l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par la vertu de sa force. Tout en laissant dans le monde, l'Évangile détache le croyant de ce présent siècle mauvais, renouvelle son entendement et en fait ainsi un témoin du Christ, capable de discerner ici-bas ce qu'est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Ainsi, l'évangélisation enlève quelque chose au monde, mais ne le change pas. Parce qu'à chaque fois qu'une âme est sauvée, le monde perd un des siens et le diable un de ses sujets. Il nous paraît important d'insister sur ces faits pour bien montrer qu'on ne saurait évangéliser aujourd'hui sans comprendre ce qu'est l'Évangile d'une part et sans tenir compte de la croyance biblique d'autre part. Il faut en effet se souvenir ce que la Bible annonce concernant la fin des temps. Il y a un temps pour tout sous le soleil, nous dit l'Ecclésiaste, dans son chapitre 3, verset 3. Si Jésus-Christ reste toujours le même, il ne nous appartient pas de changer les temps et les saisons. Le printemps n'est pas l'automne et l'été n'est pas l'hiver. Nous ne pouvons pas cueillir les fleurs du printemps en hiver, ni les fruits de l'automne en été, à moins de les manger nos mûres. Il serait donc dangereux, parce que nous sommes de ceux qui croient à la puissance du Saint-Esprit et à un Seigneur toujours fidèle, de vouloir à tout prix, dans notre zèle pour Dieu, rééditer en notre temps les résultats de l'évangélisation de l'Église primitive, et renouveler ses succès quant au nombre de conversions ou quant à la guérison divine. Quand l'iniquité s'accroît et prévaut sur la terre, que l'amour du plus grand nombre se refroidit. Il n'est pas tellement question d'avoir du succès ou de faire des miracles. Il s'agit bien plutôt de persévérer jusqu'à la fin, c'est-à-dire d'être en tout temps et partout ce que Dieu attend de nous, les témoins de son Fils. Je vous invite à ouvrir votre parole, votre Bible, pardon, la parole de Dieu, dans la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 6, versets 4 à 10. 2 Corinthiens, chapitre 6, versets 4 à 10. Que nous dit ce texte? Ce texte nous dit tout simplement, mais nous nous rendons à tous égards recommandables comme serviteurs de Dieu par beaucoup de patience dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses, sous les coups, dans les prisons, dans les révoltes ou séditions, dans l'éveil, dans les jeûnes. Par la pureté, par la connaissance, par la longanimité, par la bonté, par un esprit saint, par un amour sincère, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice, au milieu de la gloire et de l'ignominie, au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation, étant regardé comme un imposteur, quoique véridique, comme inconnu, quoique bien connu, comme mourant, et voici nous vivons, comme châtiés, quoique non mis à part, comme attristés, et nous sommes toujours joyeux, comme pauvres, et nous en enrichissons plusieurs, comme n'ayant rien, et nous possédons toutes choses. Si tout cela est observé, nous ne serons ni découragés, ni éblouis par les résultats de nos missions, ni inquiets, ni trop satisfaits au sujet des succès de nos campagnes futures. Ceux qui doivent être sauvés sont ceux que Dieu a élus dès la fondation du monde. Notre tâche à nous consiste à être ouvriers avec Dieu. Ses instruments dociles et non pas ses agents. Fondés sur la parole, nous savons que le Seigneur a annoncé à l'avance que nous ne devons pas compter sur nos efforts pour changer le monde. Si nous voulons encore annoncer l'Évangile à ce monde, il nous appartient donc de faire disparaître, comme le dit l'apôtre Paul, le vieux levain qui a fait lever toute la pâte, afin que nous soyons nous-mêmes une pâte nouvelle, sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Comment susciter parmi les âmes de l'intérêt pour Jésus-Christ? C'est la question que se posent souvent ceux qui demeurent convaincus que Jésus-Christ est le seul nom donné aux hommes par lequel ils puissent être sauvés. On parle beaucoup aujourd'hui de nouvelles méthodes à employer pour prêcher l'Évangile, de la nécessité d'un langage nouveau pour rendre accessible le nom de Jésus. On réclame une nouvelle puissance permettant d'opérer des miracles et des guérisons qui accréditeraient le nom de Jésus auprès de ses âmes. Enfin, il semble aussi qu'une propagande faite par les moyens les plus modernes pourrait certainement éveiller l'attention des foules sur celui que les chrétiens voudraient encore présenter comme le sauveur du monde. Tout en refusant de prendre une position négative à l'égard de tout ce qui se fait à l'heure actuelle pour annoncer l'Évangile, nous restons intimement persuadés que l'intérêt pour Jésus-Christ ne sera pas provoqué essentiellement par ceux qui prêchent en son nom, mais simplement par la façon de vivre de tous ceux qui se réclament de lui. Une vie transformée vécu dans le monde dans une entière consécration à Dieu, suscitera l'étonnement des parents, des voisins, des amis, des connaissances, et conduira des hommes et des femmes à s'informer de la raison d'un tel changement. Ainsi, tous ceux qui désirent attirer l'attention des âmes sur le Christ doivent s'attendre, non pas à être bien vus dans ce monde, mais à connaître le mépris, la persécution et la haine. En effet, si l'honnêteté d'un chrétien est louée par les uns, elle sera traitée d'hypocrisie ou d'imbécilité, par les autres. Partout où la vie et la direction de l'Esprit-Saint se manifesteront, la chair, se sentant jugée et condamnée, réagira avec violence. Il nous faut dire ceci pour que personne ne se fasse d'illusions au sujet des progrès de l'évangélisation dans le monde. Évangéliser, ce n'est pas construire la paix du monde et des familles, ni semer partout la joie sur la terre, partout où la doctrine de Christ sera présentée, tout où ses paroles seront reçues telles qu'il nous les a données. Partout où elles seront prises à la lettre, des familles surgiront, et l'âme libérée intérieurement de la contrainte du monde et du péché passera par le feu du creuset. Aujourd'hui, il faut se souvenir qu'évangéliser, c'est présenter au monde l'Évangile. Cet Évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Or, la puissance de Dieu, c'est Christ lui-même, avec ses promesses et ses exigences. Ce Christ qui est venu jeter le feu sur la terre, ce Christ, salut de Dieu, lumière pour les nations et gloire d'Israël, mais qui reste encore une pierre d'achoppement et un rocher de chute, un signe qui provoque la contradiction. Apporter l'Évangile au monde, c'est lui apporter tout simplement Christ. Celui-là même qui disait en Matthieu, chapitre 10, verset 34, que je vous invite à lire avec moi. Matthieu, chapitre 10, verset 34 à 36. Ne croyez pas que je suis venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. En vérité, l'Évangile est plus qu'un message. C'est une personne qui nous prend, nous possède, nous arrache à nous-mêmes, à notre famille, à notre milieu, et ne nous rend au monde que mort et ressuscité en Christ. En prêchant, il s'agit donc pour nous de présenter une personne et non de parler d'un absent. D'un être qui aurait autrefois vécu au pays de Canaan et qui est maintenant dans le ciel. Il est question de rendre présent le Christ sur la terre et de mettre les âmes en relation avec lui, accomplissant dans la sainteté et la justice sa mission d'amour auprès des pécheurs, des pauvres et des malheureux sur la terre. Pour que les paroles du Christ soient connues, reçues et crues, il faut que dans ce monde, des hommes et des femmes manifestent la vie même de Jésus. Comme Jésus fit connaître le nom du Père à ses disciples, il nous appartient à nous de faire connaître son nom aux hommes de notre génération. C'est à la manière dont un homme, une femme, aime, souffre et meurt que l'on reconnaît véritablement ce qu'il est. Contemplant Jésus-Christ, apprenons aujourd'hui à aimer Christ comme Christ nous a aimés. Apprenons à souffrir comme il a souffert en portant les douleurs de tous ceux et celles qui souffrent. Apprenons à mourir comme lui est mort, car si nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous, nous aussi nous devons donner notre vie pour notre frère. 1 Jean, chapitre 3, verset 16. Le Christ a aimé tous les malheureux, tous les révoltés, tous ceux qui, sur la terre, n'avaient pas eu leur compte de vie, d'amour et de joie. Aujourd'hui encore, l'Évangile est pour eux. Débarrassons-nous de nos préjugés et ne rendons pas, par nos principes et nos formes, l'Évangile inaccessible à ceux et celles et qui en ont le plus besoin. L'Évangile est pour ceux et celles qui n'y vivent pas comme nous, pour ceux et celles qui n'ont pas les mêmes idées que nous. L'Évangile est pour nos ennemis, pour ceux qui nous persécutent et qui nous font du tort. L'Évangile est pour les voleurs. L'Évangile est pour les assassins. L'Évangile est pour les adultères, les ivrognes, les drogués, les gens de mauvaise vie, avec lesquels Jésus faisait des banquets, mais que nous, nous refusons de voir. L'Évangile est pour les faux ménages. L'Évangile est pour les filles mères. L'Évangile est pour la jeunesse délinquante et la vieillesse abandonnée. L'Évangile est pour les malades. L'Évangile est pour les handicapés. L'Évangile est pour les prisonniers, pour les affamés, les sans domicile fixe. L'Évangile est pour ceux et celles qui, manuels ou intellectuels, ont de la peine à joindre les deux bouts. L'Évangile, enfin, est pour tous ceux et celles qui ne sont pas ce qu'ils devraient être parce qu'ils sont nés d'hommes pécheurs dans une société injuste et corrompue où règne l'égoïsme et la haine, sans parler de l'hypocrisie. Dieu n'attend pas que nous présentions à toutes ses âmes une doctrine particulière. Dieu ne compte pas sur nos arguments et nos convictions pour amener quelqu'un à accepter nos idées. Dieu attend que nous apportions à ceux et à celles qui ne pensent pas comme nous cet amour qui espère tout. À ceux et à celles qui ne vivent pas comme nous cet amour qui excuse tout. À nos ennemis, cet amour qui supporte tout et pardonne tout. Dieu attend que nous apportions à la vie des débauchés. Nous apportions cette vie qu'ils attendent. Oui, c'est débauché, c'est méchant, c'est cruel, des injustes. Non pas nos leçons de morale, non par nos leçons de morale, mais par une vie sainte, pleine de bonté, de douceur et de vérité. Dieu attend que nous prenions sur nous le fardeau des détresses humaines, apportant partout où elles se révèlent la compréhension, la chaleur et les possibilités que donne l'amour même de Dieu versé dans nos cœurs. C'est l'amour qui se dépouille pour enrichir, qui s'abaisse pour élever, qui conduit l'homme à mourir pour les autres, qui, lui-même, cet amour ne périt jamais. Et donc, pour conclure, puisque l'Évangile est cet amour, alors le monde verra qu'il est encore et toujours la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Amen.